Merci Benoît pour la prière. Merci l'équipe musicale qui nous ont dirigés dans les chants tantôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Oui.
Ça va?
Oui.
Bien, que Dieu soit loué. Alors pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois ou bien qui se joignent à nous présentement, nous vous souhaitons la bienvenue, si vous avez manqué la bienvenue de notre frère Stéphane. Et que Dieu vous bénisse parmi nous, vous êtes à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, si jamais vous ne le savez pas, parce que ce n'est pas encore écrit devant la porte. Ça va? Alors, on va le mettre bientôt, Dieu voulant. Alors, ce matin, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles pour entrer dans le vif du sujet. J'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, c'est mon introduction. Je veux parler de Jésus à la barre des témoins. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, à la barre des témoins. Pourquoi il devait venir à la barre des témoins? Nous allons voir tout cela ensemble. Mais j'aimerais que nous regardions cela et que nous comprenions pourquoi j'ai réintroduit avec Ésaïe. Ésaïe est un grand prophète qui a travaillé pour Dieu pendant 60 ans de prophétie en Israël. Il a eu de l'impact parmi les gens de sa génération, même si son message n'a pas toujours été écouté, mais c'est un des prophètes qui annonce le Messie qui va venir entre 600 à 700 ans avant qu'il ne vienne au monde. Alors, Ésaïe, quand je parle de cela, la vision que Ésaïe va voir, après avoir écrit le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, au chapitre 6, Ésaïe voit une autre perception des choses. Il voit le grand Dieu, le Seigneur des seigneurs qui est assis dans le temple. Alors, j'aimerais que nous le lisions ensemble. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, dont deux ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Je criais. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait dans la maison, et toute la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Le face-à-face avec Dieu. Ésaïe fait un face-à-face avec Dieu. La contemplation, quand on rentre dans la présence de Dieu, quand nous sommes au face-à-face avec notre Dieu, je ne parle pas de face-à-face de la jeunesse, même dans la jeunesse, nous sommes face-à-face avec Dieu aussi. La contemplation. Qu'est-ce que Ésaïe voit dans sa contemplation quand il est dans la présence de Dieu? Ésaïe prend conscience de son état à lui-même. Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, le face-à-face avec notre Dieu, premièrement, ce que ça fait, ça nous expose à nous-mêmes. Nous voyons notre état de péché. Deuxièmement, ce que ça fait, ça nous amène de prendre conscience de notre société, de notre état, de l'état de notre société, de notre culture dans laquelle nous vivons. Les choses cachées qui sont derrière, qui paraissent beaux, deviennent visibles, mises à nu, et nous sommes conscients de l'état de notre société dans sa culture et dans sa façon de faire, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que Ésaïe dit, « Je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impur. Il n'était pas le seul à être impur. Ésaïe était conscient qu'il vivait au milieu d'un peuple qui ne correspondait pas aux normes et aux exigences de Dieu, malgré qu'ils étaient appelés le peuple de Dieu. La troisième chose qui se passe quand nous faisons un face-à-face avec Dieu, quand nous contemplons la présence de Dieu, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, le visage de Dieu, alors nous avons le goût de vouloir conquérir le monde. Parce que Ésaïe entend la voix. Quand l'ange a touché, dit « Ceci a touché tes lèvres, ta bouche, alors ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Alors j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» J'ai dit « Me voici, envoie-moi. » Quand on entend la voix de Dieu, quand on fait un face-à-face avec Dieu, on a le goût de changer le monde. Ça, c'est la troisième chose qui se passe. Ce matin, je voudrais que quand on va sortir d'ici, que nous ayons le goût de changer le monde. Que vous et moi, nous ayons le goût de transformer le monde. Non seulement que nous soyons transformés par le message de Dieu, par la présence de Dieu, chaque jour que nous allons avoir et que nous ayons tous les jours avec nous, mais que nous ayons le goût de changer notre société par le message de Christ. Amen. Jésus à la barre des témoins. Si on vous posait la question, ce matin, si je vous demandais pourquoi Jésus est-il venu dans le monde, qu'est-ce que vous me direz? Je ne veux pas que les anciens répondent parce qu'ils connaissent la réponse. Pour sauver ce qui était perdu. Oui, c'est une bonne réponse, mais elle n'est pas suffisante. Oui, que Jésus soit venu sauver le monde, c'est vrai. S'il est venu sauver le monde, qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça veut dire que nous avons besoin de rédemption. Nous avons besoin d'être rachetés. Et c'est important qu'on soit rachetés. Mais la réponse n'est pas suffisante. Elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante. Oui, qui d'autre veut me dire quelque chose? Il est venu se sacrifier, une nouvelle humanité. Oui, mon frère, rend témoignage à la vérité. Là, il m'a persécuté, lui-là. Je t'avais dit qu'un ancien ne répond pas à ça. Tu es un ancien, toi, non? Tu es vieux, là. Oui, il est venu sauver le monde, c'est vrai. Nous pourrons dire qu'il est venu parler réellement du monde, oui, il est venu nous racheter, tout cela sera vrai. On pourrait dire, il est venu pour briser les portes des prisons. On pourrait dire tout ça. Je vais vous amener pour que nous comprenions ensemble tout ça. Il est venu pour accomplir les prophéties. C'est une bonne réponse. Mais qu'est-ce que cela nous dit quand on dit Jésus est venu accomplir les prophéties? Ça voudrait dire qu'il y a un plan qui avait été établi. Ce n'est pas un hasard. Ça voudrait dire que s'il est venu accomplir les prophéties à son égard, ça voudrait dire qu'il n'est pas n'importe qui. Dieu non seulement avait un plan, il n'était pas n'importe qui venait pour se déclarer, pour dire qu'il est quelqu'un sans l'être. Alors, si on dit qu'il est venu accomplir les prophéties, c'est très important. On pourrait dire qu'il est venu nous sauver, on a parlé de ça. Il est venu sauver le monde. On a besoin d'un rédempteur. Il est venu guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il est venu casser les prisons de Trois-Rivières, qui est à côté de chez moi, pour enlever les violeurs, pour enlever les brigands, pour enlever tous les grands bandits de grand chemin, pour les libérer pour qu'ils rentrent chez eux? Non! Il est venu libérer les captifs, ceux qui sont captifs du mensonge. Ceux qui sont captifs du péché. Amen. Toutes ces réponses sont bonnes, mais elles ne sont pas suffisantes. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Si je vous disais ce matin qu'après ici, il faut que j'aille témoigner, à quoi est-ce que vous allez penser? Où est-ce que j'irai témoigner, selon vous? Hein? À Saint-Tite, oui, il pense aux fermiers chrétiens. Non, si je vous demandais que je devrais quitter ici tôt pour aller témoigner quelque part, que pensez-vous où je vais aller témoigner, en réalité, généralement? Où? Dans le monde. Au tribunal. Au tribunal, on va témoigner. Parce que vous n'avez pas compris mon thème. Jésus à la barre des... Il va témoigner où? Au tribunal. Alors, si je vais témoigner au tribunal, que pensez-vous que je vais dire? La vérité. Au tribunal, quand on va, on demande de parler de la vérité. Et tu lèves la main, je le jure. Toute là, rien que là, et je dirai là, voilà. Rien que la vérité. Toute la vérité. Alors Jésus est au tribunal pour témoigner de la vérité. Alors nous pouvons regarder cela. Ça voudrait dire que si Jésus est venu pour témoigner, ça voudrait dire que c'était la vérité qui était en procès. La vérité était en procès. Et Jésus vient témoigner pour la vérité. Regardons l'Écriture ensemble dans Jean chapitre 18, à partir du verset 33. Jean chapitre 18. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas, n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus lui dit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la... Pour rendre témoignage à la... À la vérité. » Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce que Jésus dit. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? On va voir ça. Jésus dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il n'a pas dit « Je suis venu seulement pour sauver, mais je viens rendre témoignage à la vérité. » Jésus est la barre des témoins. Il rend témoignage de la vérité. C'est frappant, non? Que quelqu'un quitte le ciel pour venir rendre témoignage à la vérité? Souvenez-vous, dans ce passage qui est connu de nous tous, imaginez-vous, Jésus dit, il est debout devant Pilate. Toute la nuit, il a été silencieux. Et tout au long de son procès. Maintenant, il est prêt à parler. Vous savez ce qui se passe au ciel? Les anges approchent leurs chaises pour regarder sur la terre, pour écouter la réponse que Jésus va donner. Supposons qu'il y a des chaises au ciel. Admettons qu'il y a des chaises au ciel. Alors tout le monde veut écouter cette réponse-là. Qu'est-ce qu'il va dire? Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il va défendre la vérité. Dans notre société aujourd'hui, est-ce que la vérité est une chose importante, si je vous demandais? Mais ce matin, pour toi, est-ce que la vérité est importante? pour nous comme peuple de Dieu, comme enfants de Dieu, est-ce que la vérité est importante? Est-ce que aimerions-nous que les gens nous parlent selon la vérité? Aimerions-nous que notre femme nous dise la vérité, que notre mari nous dise la vérité? Aimeriez-vous que vos enfants vous disent la vérité? C'est la première chose que nous enseignons à nos enfants, vous ne devez pas mentir, n'est-ce pas? Mais moi, on m'a beaucoup battu pour ça, mon papa, à mon enfance. Tu ne dois pas mentir, tu dois dire la vérité. Tu ne voles pas. Je me souviens que j'ai pris, même pas 25 cents, mais une cent pour payer de l'arachide au village. Je suis allé payer du pétrole qui coûtait 25 cents. Et puis après, j'ai pris, au lieu de payer 25 cents, j'ai pris 24 cents pour payer du pétrole, pour mettre dans les lampes tempêtes là. Puis j'ai pris une cent pour payer de l'arachide avec. Vous savez ce que la lampe m'a fait? La lampe tempête m'a trahi la nuit. Parce que le pétrole n'a pas suffi jusqu'au matin. Alors ma maman habituellement prenait la lampe, elle prenait le reste du pétrole, elle faisait le feu le matin très tôt, elle faisait le repas pour toute la famille. Alors la lampe était vide avant le matin. On me réveille, qu'est-ce qui se passe? Tu as payé le pétrole pour combien? J'ai dit non, j'ai payé pour 25 cents. Est-ce que c'est vrai? Non. Papa est allé voir le voisin, il lui demande, est-ce que le petit est venu acheter du pétrole hier? Oui. Et il a acheté pour combien? Il dit, ah non, on est surpris. Habituellement, il paye toujours pour 25 cents. Mais cette fois-ci, il a payé pour 24 et puis il a payé de l'arachide avec le reste. Et là, le gars, il m'a mis nu dehors comme ça, là. Il ne m'a même pas protégé un peu. Ah, je n'ai pas à vous compter les talons et les coups de pied que j'ai reçus dans le derrière. Et papa m'a frappé. Il m'a dit, il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de voleur dans notre famille. Si tu me mens prochainement, je t'égorge. Je te dis là, quand tu es jeune, on te dit ça, tu vas marcher droit, les fesses serrées. Et c'est pourquoi quand on me ment, ça me blesse beaucoup. J'aime parler selon la vérité. Et Dieu veut que nous disions la vérité. Quand je me marie avec ma femme, la première des choses que j'ai dit à ma femme, avant de me marier, je dis, Anne, s'il te plaît, sois authentique avec moi, sois honnête avec moi. Et je vais être honnête et authentique avec toi. Même si tu as tort, dis-moi la vérité, je vais te défendre. Connaissant que tu as tort, on va le réparer ensemble. Mais si tu me mens et qu'après je trouve que tu as tort, je te défends et puis je trouve que j'ai tort, que tu as tort, je vais mourir. Je vais faire une crise cardiaque et je vais mourir. Et c'est très important pour moi, la vérité. Je suis devenu chrétien parce que la Bible est la vérité. Amen. C'est ça. Qu'est-ce que la vérité? Cette fameuse question. Une question importante, une question capitale, une question que les philosophes posent, une question que les archéologues posent, une question que les historiens posent, une question que même les ingénieurs posent, et une question que des professeurs en génie mécanique se posent. Tout le monde se pose cette question. Tout le monde veut savoir la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus était devant un homme le plus puissant, le leader le plus puissant terrien. Il était devant cet homme-là, Pilate. Et Jésus était l'autorité la plus haute que le monde n'a jamais connue et que le monde ne connaîtra pas. Et il pose la question qu'il est venu rendre témoignage et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Comme quoi, des fois, quand on dit on a la vérité, les gens veulent nous taire. Qu'est-ce que la vérité? Comme si la vérité absolue n'existe pas. Nous sommes dans un monde post-moderne. Tout le monde dit, tout le monde se promène avec leur vérité sous leurs bras, coupée sur mesure. C'est sa vérité. Et quand tu lui dis, il y a la vérité absolue, non, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Alors en ce moment, on peut poser la question, celle de Dieu, elle se trouve où en ce moment? Si toi tu as ta vérité, que moi j'ai ma vérité. Alors sur quelle base on va juger les choses? Quelle est la mesure, la norme avec laquelle nous allons pouvoir prendre des décisions qui va pouvoir apporter la paix pour tout le monde entier, pour notre église, pour notre vie, pour notre foyer, pour notre école, pour notre travail, pour notre communauté? Sur quelle base on peut s'asseoir dessus? Si toi, tu as ta vérité varie, la mienne varie, qu'est-ce qu'on fait finalement? Vous êtes confronté à cela, au travail, à la maison. Chacun a sa vérité, chacun a sa perception des choses. Alors, moi, j'ai quelques définitions par rapport à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qui est conforme aux faits et à la réalité. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est conforme aux faits et à la réalité. Ça, c'est ce que Ravi Zacharia dit. La vérité est une affirmation, affirme d'une manière la plus évidente, naturelle, la réalité telle qu'elle est. C'est ce que Ravi Zacharia dit. Et qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la réalité. C'est la réalité perçue par Dieu. Ta perception peut changer. Ma perception peut changer avec le temps. Surtout quand on a faim, notre perception change. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, en tout cas, quand j'ai faim, jusqu'à un certain degré, je vois des mirages. Et quand je passe devant un restaurant, l'odeur m'attire. Je pense que ma femme est en train de préparer là-bas. Je vais aller pour qu'elle me serve. Mais ce n'est pas vrai, parce que j'ai faim. Donc, ma perception peut changer. Quand on est malade, notre perception change. Quand on est en colère, notre perception change. Quand on est fâché, notre perception change. Mais la perception qui ne change pas, c'est la perception de Dieu qui ne change pas. C'est pourquoi la vérité de Dieu reste la vérité absolue, inchangée. Et l'Écriture nous dit qu'en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Dieu est fidèle à lui-même. Il ne contredit pas ses lois et ses principes. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, la perception de Dieu ne change pas. C'est pourquoi, qu'est-ce que la vérité? L'Écriture nous dit, la vérité, Dieu est la vérité. Dans Jean 17, il nous dit, Jésus affirme, seul Dieu est vrai. Dieu est vrai. Comme sa perception ne change pas de la réalité, alors ce qu'il dit est vrai. C'est lui qui a établi les choses avec des lois. Et c'est vrai. Alors, nous pouvons nous poser la question. Si la vérité de Dieu ne change pas, et l'Écriture nous dit à plusieurs reprises, dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. » Dieu est la vérité, sa parole est la vérité. C'est pourquoi la Bible est la vérité. Puisque Dieu qui l'a écrit, Dieu se révèle par lui-même et il nous parle au travers des Écritures. Quand j'achète un livre, ou quand je dis un livre, quand j'achète une machine, un ordinateur ou bien un four micro-ondes, ça vient avec un manuel. Le manuel a pour but de me dire quoi? Hein? Ah! Comment ça fonctionne? La vérité en ce qui concerne cet appareil. Donc, nous pouvons dire qu'il peut avoir plusieurs formes de vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité scientifique est différente. La vérité historique est différente. La vérité archéologique est différente. C'est des vérités, mais qui s'englobent dans la vérité principale de Dieu. Parce qu'ils ne font que découvrir ce que Dieu a établi dans la loi de la nature, de la création. Donc, ils ne créent pas une vérité. Ils découvrent une vérité qui existait déjà. Alors, donc, la parole de Dieu est la vérité. Quand on a créé le monde, quand je parle aux gens, Dieu a créé le monde. Comme un ingénieur qui crée un réfrigérateur, un appareil. Il met un manuel avec. Je vous demande, quel est le scientifique qui a donné un manuel pour montrer comment notre monde fonctionne? Le seul manuel qu'on a pour savoir comment nous fonctionnons et pourquoi tu as été créé et quel est l'objectif de Dieu pour toi et quels sont ses plans pour notre monde et qu'est-ce qu'il attend, il veut de toi et de moi, c'est la Bible qui nous le dit. Il n'y a aucun livre qui a écrit sur ça. Platon n'a pas écrit sur ça. Socrate n'a pas écrit sur ça. Et d'autres scientifiques n'ont pas écrit sur ça. Même Galilée n'a pas écrit sur ça. Blaise Pascal n'a pas écrit beaucoup de choses sur ces choses-là. C'est Dieu qui décrit comment ces choses fonctionnent. Alors si tu veux savoir pourquoi tu es sur la terre, lis la Bible. Amen. C'est la vérité absolue de Dieu qui ne change pas. Dieu est la vérité, sa parole est la vérité. Donc ce matin, peut-être que tu es à la recherche de la vérité. Tu as entendu beaucoup de choses de partout. Tu es perplexe. Tu es réticent. Mais j'aimerais que tu saches que Dieu dit que sa parole est la vérité et lui-même est la vérité. Il s'est révélé, il ne peut pas se contredire. Est-ce qu'il y a des questions qui restent non répondues dans la parole? Oui. Mais ce que je devrais savoir pour pouvoir fonctionner comme un humain, comme une créature de Dieu, comme un vrai adorateur de Dieu, par rapport au plan de Dieu, par rapport à mon fonctionnement, n'est pas nébuleuse dans les Écritures. C'est clair. Maintenant, si tu me demandes si Adam avait un nombril, il n'en a pas, je ne réponds pas à ça parce que la Bible ne le dit pas. Amen. Et puis la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça sert de savoir si Adam a un nombril ou n'en a pas. Ça change quoi dans ton salut et dans ton état de péché? C'est que tu as besoin de savoir et d'entendre que si tu meurs, tu vas dans l'enfer sans Jésus-Christ. Alors la vérité de Dieu dit que si tu crois en lui, si tu mets ta foi en lui, tu peux être sauvé à cause que Christ est mort à la croix pour toi et qu'il a versé son sang et que tu peux entrer au ciel si tu mets ta foi sur cette vérité. C'est le fondement de la vie chrétienne, c'est le fondement de notre existence, c'est le fondement et de tout ce qui montre que Dieu existe, que nous existons. La foi a besoin d'un fondement. La foi a besoin de quelque chose de solide. Et c'est la parole de Dieu. Si elle n'est pas un fondement pour toi, alors tu peux avoir d'autres fondements. Mais ces fondements-là vont s'écrouler face au fondement de Dieu. Dieu ne te jugera pas en fonction des fondements que tu t'es créés, mais il va te juger en fonction des fondements et de la vérité que lui t'a donné, que tu devais savoir et que tu sais que tu n'as pas agi en fonction de cela. Amen. La parole de Dieu est la vérité, Dieu est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Comment Jésus a-t-il rendu témoignage à la vérité? Il est venu rendre témoignage, mais comment il l'a fait? Alors nous pouvons le voir en marchant dans la vérité. Jésus a marché dans la vérité. Et quand nous lisons les Écritures dans Matthieu 26, verset 42, il dit, « Ils s'éloignèrent une seconde fois. » Ça, c'est par rapport à quand Jésus était dans la prière, dans le jardin de Gethsémané, quand il était dans le combat ultime de sa vie, de sa mission, je pourrais dire. Alors, ils s'éloignèrent d'eux une fois. Il pria ainsi son Père, « S'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus était dans le jardin de Gethsémané et il priait et son sang devenait un grumeau. On dit que son sang là, ça devenait des grumeaux de sang qui sortaient de lui, qui tombaient. Sa sueur plutôt, excusez. Sa sueur était transformée en grumeaux de sang. Il combattait. Avez-vous déjà prié de sorte que vous transpirez des glaçons? Mais Jésus, il priait intensement. Mais Jésus va se débarrasser de son manteau, le manteau de sa volonté. Mais il va faire le manteau de son Père, la volonté de son Père. Il prend le manteau de la volonté de son Père que depuis le commencement, il a toujours porté. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Comment Jésus a marché dans la vérité, a témoigné de la vérité en marchant dans la vérité? Il a obéi à tous les commandements de son Père. Toute la loi établie par Moïse. Jésus n'a violé aucune loi de Moïse, sinon il ne serait même pas capable d'être l'agneau pour nous. L'agneau qui ôte le péché du monde. Il a obéi totalement. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Et dans sa volonté, il a obéi à la volonté du Père. Et dans Hébreux, il nous dit, Hébreux 10, « Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Combien de fois nous aimons faire notre propre volonté? Même quand on reçoit des consignes claires, mais des fois on laisse ces consignes claires à côté et nous faisons notre propre volonté. N'est-ce pas? Honnêtement, là, Mais Jésus, lui, il a laissé sa volonté pour faire la volonté de son Père. Voilà comment il a rendu témoignage à la vérité. Comment Jésus a-t-il rendu témoignage à la vérité? En disant la vérité. Non seulement il a marché dans la vérité, il a proclamé la vérité. Il a proclamé la vérité en parcourant toutes les villes d'Israël, annonçant la vérité de Dieu. Alors, les Juifs envoyèrent ici, ils envoyèrent les Juifs et les Hérodiens, ils envoyèrent auprès de lui des disciples avec les Hérodiens et qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Je vous demande ce matin, quand tu enseignes la parole de Dieu, quand tu dis des choses à tes amis par rapport à Jésus, parles-tu selon la vérité ou bien tu la déformes à ta manière pour la faire passer? Jésus enseignait selon la volonté, la vérité. Il disait la vérité aux gens. Il ne cachait pas la vérité. De sorte que les gens étaient conscients de ça, on vient lui dire, « Nous connaissons que tu es un homme de Dieu. Nous savons que tu enseignes selon les voies de Dieu et selon la vérité. Tu n'as peur de personne. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu ne cherches pas à plaire à M. X pour ne pas dire la vérité parce que je ne vais pas le blesser. Il faut être doux avec lui. Il faut être gentil. » Oui. Tout ça, c'est nécessaire pour communiquer la vérité de Dieu. Tout ça, c'est bon pour communiquer la vérité de Dieu. La douceur, la bonté, la sagesse. Mais ça n'empêche pas de dire la... C'est ça. Ça n'empêche pas de dire la vérité. La vérité, elle ne change pas. Embellis-la comme tu veux, mais elle ne change pas. Il faut que quand la personne ne reçoit qu'elle ouvre, c'est la vérité. Mais des fois, dans notre compréhension de dire la vérité, qu'est-ce que nous faisons? Nous coupons dans la vérité. Nous enlevons tout ce qui fait la vérité. Et nous donnons tout sauf la vérité. Mais Jésus, lui, parlait selon la vérité. À la maison, est-ce que nous parlons selon la vérité? Jésus dit la vérité à la femme samaritaine. La femme samaritaine, dans sa conversation avec Jésus, elle lui dit, nous avons appris que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Est-ce la vérité? C'est très direct, hein? Il n'est pas passé par 56 000 chemins, hein? Il dit, je le suis, moi qui te parle. Au Québec, on dit, wow, wow, capitaine bonhomme, tu peux être plus haut que le trou là, attends là, tu ne peux pas être seul. Mais non, il dit, je le suis, moi qui te parle. Il a parlé selon la vérité à la femme samaritaine. Jésus va parler selon la vérité à ses disciples. Et quand il marche avec eux, il leur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. » Tu peux dire aux gens que Jésus est le chemin. Tu peux dire aux gens que Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Wow! Tu ne laisses pas la place à d'autres religions, là. Tu ne laisses pas la place à d'autres pensées, à d'autres réflexions philosophiques. Jésus est la vérité absolue. On n'a pas à négocier. Notre société n'accepte pas cela. Il ne peut pas être la vérité absolue selon certaines personnes. Mais cependant, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je suis la vérité. Crois-tu cela? Que Jésus soit la vérité absolue. Il a parlé selon la vérité. Il n'a rien caché à ses disciples. Au chef, le jeune homme riche qui vient voir Jésus, il dit, « Seigneur, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux ?» Qu'est-ce que Jésus lui dit? Est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, « Vends tes biens. » Mais avant cela, Jésus dit autre chose. Il dit, « As-tu respecté la loi de Moïse ?» Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche dit, j'ai fait tout cela dès mon jeune enfance. Alors on dit, quand Jésus ayant entendu cela, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui dit, hein? Il l'aima. Et il lui dit, maintenant va, vends tout ce que tu as. Partage-le aux pauvres. Viens et suis-moi. On dit, le jeune homme, quand il a appris cela, il est devenu comment? Triste. Et Jésus va ajouter qu'il est facile pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit qu'un riche ne rentrera jamais au ciel s'il met sa foi en lui. Il ne dit pas que la richesse est mauvaise. Mais il montrait l'obstacle. La foi de cet homme n'est plus dans le Seigneur, mais dans son bien matériel. Alors, tu veux rentrer au ciel? Mets ta foi en moi. Donne tout ça, vends tout ça et compte sur moi et suis-moi. Ta foi est où? Ma foi est où? Jésus a parlé selon la vérité à cet homme. Il n'a pas amadoué la vérité. Il n'a pas caché la vérité. Il aurait pu dire, ah, oh, je vais le blesser. Ah, oh, voilà, c'est ce que j'aurais dû éviter. Regarde, il est devenu triste. Je ne voulais pas ça. Moi, je suis le fils de Dieu, je dois être gentil avec tout le monde. Est-ce que c'est ce que le Seigneur dit? Non. Il met la vérité à la lumière. Il l'expose à qui veut l'entendre ou non. Dans Éphésiens, l'Écriture nous interpelle. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun parle à son prochain selon la vérité. Ou que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Ça veut dire qu'après ici, là, quand je vais descendre, là, quand tu vas me parler, là, tu vas me parler selon la vérité. C'est ça que ça voudrait dire. Quand je vais vous parler, je vais vous parler selon la vérité. Quand je suis en réunion avec les autres anciens, je vais leur parler selon la vérité, ils vont me parler selon la vérité, comme d'habitude. Que quand nous prenons les décisions pour l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, nous la prenons sur la base de la vérité. Et quand je viens exercer mon ministère, que ce soit la musique, balayer, travailler au son, la projection, accueillir à la porte ou dehors, je le fais sur la base de la vérité. Amen. Que je sois dans le cafétéria, derrière dans la cuisine, je le fais sur la vérité. Et que je sois en train de témoigner à quelqu'un, à mon voisin, à notre communauté, je le fais sur la base de la vérité. Que chacun parle à son prochain. Selon la vérité, pas selon l'hypocrisie. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. L'hypocrisie, porter des masques, se cacher derrière quoi que ce soit, essayer de paraître ce que nous ne sommes pas, essayer de faire croire ce que nous ne sommes pas. Un enfant de Dieu ne doit pas être cela. Moi, j'ai dit, la meilleure religion pour être hypocrite, c'est l'islam. Et si j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien, ce n'est pas pour être hypocrite. Alors je ne veux pas vivre avec des hypocrites. Je veux marcher avec des hommes et des femmes qui sont aussi authentiques, vrais que possible, comme la parole de Dieu le dit. Amen. Amen. Vos amens sont froids, hein? C'est ce que je dis, ça ne fait pas votre affaire, hein? Mais on va le dire pareil parce qu'on a besoin de l'entendre. Amen. Moi aussi. Comment Jésus a-t-il? Non seulement Jésus a dit la vérité, Jésus a marché selon la vérité. Il a dit la vérité. Et qu'est-ce que Jésus a fait d'autre? Il a vécu selon la vérité, en vivant dans la vérité. Qu'est-ce que je veux dire en vivant dans la vérité? Et nous avons vu cette partie de ce verset que je vous ai montré au départ, pour montrer qu'il faisait la volonté de Dieu et qu'il a marché dans la vérité. Et ici, en vivant dans la vérité, ils envoyèrent encore, c'est dans le même texte, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens en lui disant, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Waouh! Nous savons que tu es vrai. Comment ils ont su qu'il est vrai? Que votre voisin vous dit, « Nous savons que tu es vrai. » Que votre femme vous dit, « Je sais que tu es vrai, tu es authentique. » Que ton patron te dit que tu es vrai et authentique. Être vrai, c'est être authentique. Et Jésus va dire à Nathanaël, quand il le voit, il dit, oui, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Un vrai juif, authentique, en qui il n'y a point de fraude, il n'y a point de mélange. il est authentique. Les gens rendaient témoignage de lui parce qu'il était authentique. Dans l'Écriture, on nous dit, dans Jean, et Michel nous a enseigné sur dimanche dernier, sur Dimitris, cet homme-là qui avait un bon témoignage. Alors Michel, je vais te dire que je t'ai écouté quand tu l'as enseigné. Merci. Dans Jean 3 Jean, verset 1 à 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité que tu as en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. C'est d'autres frères qui sont allés voir ces frères-là et qui ont vu que Dimitris était un homme de Dieu et qui marchait dans la vérité. Il ne faisait pas de flafla, il n'était pas hypocrite, il ne disait pas quelque chose à quelqu'un d'autre et puis il disait le contraire. Il était authentique, vrai. Il marchait dans la vérité. Pouvons-nous être vrais? Vivre la vérité. Jésus a vécu la vérité, il a marché dans la vérité, il a proclamé la vérité, il a vécu la vérité. C'est pourquoi son témoignage était puissant devant le tribunal, à la barre des témoins. La vérité qui descend pour rendre témoignage à la vérité. Son témoignage est crédible. Jésus peut dire, personne ne peut m'accuser de péché, que quoi que ce soit. Qui peut me convaincre de péché? Il n'y en a pas. Donc, il était un témoin fidèle. Un témoin dont le témoignage ne peut être mis en doute en aucun moment. Et tout ce qu'il disait était vrai. Vrai, authentique, sans aucune obscurité dessus. Conclusion, ma question. Quelle place, si la vérité est importante pour nous, si nous sommes le peuple de Dieu comme nous le prétendons et comme nous le disons tous les jours, comme nous l'avons chanté ce matin, comme nous lisons notre Bible tous les jours, si nous sommes véritablement le peuple de Dieu, j'aimerais que vous compreniez mon point ce matin, que la vérité est essentielle dans notre vie. Ce que je crois de la vérité transforme ma vision du monde. Ce que je dis de la vérité, je fais de la vérité, a de l'impact sur ma vie, sur mon entourage et sur tout ce que je fais. C'est pourquoi je vous parle de la vérité ce matin. Alors si elle est importante, quelle place occupe-t-elle dans notre vie et dans notre quotidien? Si la vérité est importante pour nous, est-ce que nous marchons, vivons, parlons à nos frères et sœurs selon la vérité? Si la vérité est importante pour nous, est-ce que nous enseignons et exhortons selon la vérité? Et ce que je peux dire ce matin, tout ce que j'ai enseigné ce matin, que c'est la vérité. Et quand je vais rentrer le mercredi matin dans la réunion des anciens, avec mes frères, et qui vont me cuisiner sur le texte que j'ai enseigné, est-ce que je pourrais dire que j'ai enseigné la vérité de Dieu? Est-ce que je pourrais tester devant Dieu en disant que ce que j'ai dit, je n'ai dit rien d'autre que la vérité? Si la vérité est importante pour nous, sommes-nous, pouvons-nous dire comme Jésus, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tu es né spirituellement pour rendre témoignage à la vérité. Dieu t'a sauvé, pas pour que tu chauffes les bancs. Il t'a sauvé, pas pour que tu décores la salle. Il t'a sauvé pour que tu sois un témoin. Comme lui, il est un témoin de la vérité, il veut que toi et moi, que nous soyons des témoins de la vérité. Que l'Assemblée chrétienne soit une église qui est témoin de la vérité, qui témoigne de la vérité dans son milieu, dans sa communauté, partout où elle va, en tant que chrétien, mais aussi comme bâtiment. Témoin de la vérité. Pouvons-nous dire cela? Si tu ne peux pas le dire, alors je pense que tu dois te repentir et te mettre en question. L'Assemblée chrétienne est-elle un témoin fidèle à la vérité de Dieu. Ce matin, peut-être que tout ce que je viens de dire t'a passé au-dessus de la tête. Ou ce matin, peut-être que tu es à la recherche de la vérité, tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Mais j'aimerais que tu saches que tu peux être sauvé. La Bible est la vérité. Dieu est la vérité. Il s'est révélé dans sa parole. Ignorer cette parole de Dieu, ce message du salut, qui dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. L'Écriture nous dit dans Jean 11, dans Jean 1, Jean 5, 11, il nous dit, et voici ce témoignage, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Tu peux ce matin devenir enfant de Dieu. La balle est dans ton camp. Je te supplie de ne pas ignorer ce message de vérité de Dieu. Peut-être autour de toi, il y a beaucoup de superlatifs, il y a beaucoup de gens qui disent des paroles en disant « la vérité est relative » ou « relative ». Mais celle que je te dis n'est pas relative, c'est une vérité absolue de la part de Dieu. Si tu ne crois pas à cause de moi, crois parce que ça vient de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Peut-être que tu as aussi rétrogradé, mon frère. Ma sœur, tu t'es éloigné de Dieu depuis longtemps. Tu t'es éloigné de cette vérité de Dieu. Tu commences à vivre une vie qui ne plaît pas à ton Père et qui a de l'impact sur tes frères et sœurs comme moi aussi. Si c'est ton cas ce matin, repens-toi. La Bible nous dit, Jean 17, 17, « Car ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. » Alors Dieu peut te sanctifier et te pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ton retour au bercail est capital. Que tu t'accroches de la parole de Dieu est nécessaire et vital. Moi, y compris chacun de nous, nous devons demeurer attachés à la parole de Dieu et vivre dans la vérité, et marcher dans la vérité, et proclamer la vérité de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, je viens dans l'humilité te demander de nous pardonner toutes les fois, moi le premier, toutes les fois où je n'ai pas marché selon la vérité, où j'ai dû lier ta parole, où nous avons essayé de faire des choses qui n'ont pas été en fonction de la vérité, nous avons péché contre toi. Comme église, comme frère, comme sœur, comme leader, nous voulons tous, dans un commun accord, te demander pardon et de nous aider à marcher désormais selon la vérité, parce que tu es le témoin de la vérité, notre Dieu. Nous voudrons être des témoins fidèles de la vérité, Papa. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de proclamer la vérité, qui n'ont pas peur de vivre et d'être authentiques comme toi tu l'as été. Fortifie-nous. Encourage ton peuple que nous sommes. Alors si les autres ne veulent pas vivre selon la vérité, Seigneur, nous, on veut vivre selon la vérité. Aide-nous, Papa. Garde-nous, tiens-nous dans tes bras. Garde-nous proches de toi. Comme un maître tient son chien dans la laisse, alors tiens-nous dans la laisse à côté de toi si jamais on devrait s'écarter loin de toi. Papa, s'il te plaît, fortifie ton peuple que nous sommes et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon dimanche.